Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, le lupus systémique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alexis Mathian. Docteur Mathian, bonjour.
Bonjour à tous.
Docteur Mathian, vous êtes médecin interniste et chercheur en immunologie au sein du service de médecine interne 2, maladies auto-immunes et systémiques de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous faites également partie du groupe de travail qui a rédigé le récent PNDS sur le lupus systémique, qui est d'ailleurs en cours de mise à jour sous l'égide de la filière FAI2R. Alors pour débuter notre entretien, docteur Mathian, qu'appelle-t-on lupus systémique ?
Alors le lupus systémique, plus qu'une maladie, c'est un syndrome clinique de cause inconnue qui est caractérisé par l'atteinte, souvent inflammatoire, mais pas toujours, de différents organes et tissus. Et surtout la présence d'auto-anticorps qui reconnaissent les constituants du noyau cellulaire, c'est-à-dire les anticorps antinucléaires. La présentation clinique elle est très polymorphe, avec certaines atteintes évocatrices sur la présentation clinique et histologique et d'autres qui ne sont absolument pas spécifiques. Et le meilleur critère diagnostique de cette maladie, c'est la présence des anticorps anti-ADN. Leur présence n'est cependant pas constante et n'est pas suffisante pour poser le diagnostic de lupus. On pourrait rajouter, pour terminer la définition, que c'est une maladie à évolution chronique avec alternance de phases actives de la maladie, phases où se font les séquelles de la maladie, éventuellement l'insuffisance rénale, les séquelles neurologiques, et en alternance avec ces phases actives, des phases de rémission. Le traitement vise à permettre la mise en et le maintien, la mise en rémission et le maintien de cette rémission pour permettre aux patients de vivre en absence de symptômes. Et pour terminer, je dirais qu'on distingue deux types de lupus. Celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le lupus systémique, et puis le lupus cutané pur. Alors le lupus cutané pur ou isolé, c'est une maladie où il n'y a qu'une atteinte dermatologique, et il n'y aura qu'une atteinte dermatologique au cours de l'évolution. Et le lupus systémique, c'est une maladie où il peut y avoir une atteinte dermatologique, mais il y a une atteinte d'autres organes qui en posent toute la problématique et tous les risques évolutifs des atteintes articulaires, mais également des atteintes viscérales profondes.
Alors justement, quels sont les principaux symptômes qui sont rencontrés chez les patients touchés ?
Les symptômes sont très polymorphes. Les premiers symptômes peuvent être des manifestations générales, de la fatigue, de la perte de poids, de la fièvre, parfois des adénomégalies, rarement des splénomégalies. Et puis, on peut également avoir un syndrome de Raynaud qui n'est pas une manifestation spécifique. Une atteinte cutanée qui est différenciée en différentes atteintes possibles. On parle de lupus cutané aigu, subaigu ou chronique. Pour résumer les caractéristiques de cette atteinte cutanée, il s'agit d'une éruption érythémateuse qui peut toucher donc la peau et les muqueuses, qui touche de façon prédominante mais pas exclusive les zones photo-exposées. On parle d'érythème sur les joues, d'érythème malaire, d'érythème en aile de papillon, en vespertilio. Il peut y avoir également des localisations sur le décolleté, sur les bras, mais l'ensemble du tégument peut être touché et les muqueuses. Cet érythème est sensible, possiblement prurigineux, mais habituellement pas. Et dans certaines formes de lupus cutané, il peut laisser des cicatrices indélébiles. On peut également avoir une forme d'engelure qui persiste l'été, qui s'appelle des pseudo-engelures. La seconde atteinte la plus fréquente est l'atteinte articulaire, qui est caractérisée par une polyarthrite des petites articulations, touchant les poignets, les mains et les doigts, aiguë ou subaiguë, habituellement non destructrice et non déformante, sauf dans les rares cas de ce qui est appelé le rhumatisme de Jakou. Il y a également des atteintes des séreuses qui se manifestent par des péricardites aiguës, parfois des tamponades, et des pleurésies aiguës, parfois chroniques. L'atteinte ascitique est très rare. L'atteinte qui vient ensuite et qui est la plus grave est l'atteinte rénale, qui la plupart du temps ne se manifeste par aucun symptôme, en dehors d'une protéinurie, d'une hématurie, d'une leucocyturie, qui seront dépistées sur les analyses de laboratoire. Il peut y avoir, dans les formes cliniquement plus symptomatiques, des syndromes néphrotiques, des syndromes néphritiques et des syndromes d'insuffisance rénale chronique, qui sont donc des manifestations assez tardives de cette maladie. On peut rencontrer également des atteintes cardiaques sous la forme de myocardite, de pathologie valvulaire, des atteintes du système nerveux, surtout central, qui sont très variables, qui peuvent être présentées sous la forme d'accidents vasculaires cérébraux, Et pour terminer, pour être complet, on peut rencontrer des anémies hémolytiques auto-immunes, des thrombopénies auto-immunes, et puis c'est une maladie où il y a une fâcheuse tendance aux thromboses artérielles et ou veineuses, même en absence de cette maladie thrombophilante qui peut être associée au lupus et qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides.
Et comment survient cette maladie rare qu'est le lupus systémique? Quelle est sa physiopathologie?
La physiopathologie, elle est extrêmement complexe. En un seul mot, on pourrait résumer que le lupus est un antidéficit immunitaire, une maladie dans laquelle le système immunitaire est hyperréactif et déraille, induit une suractivation quand il est stimulé pour une autre cause. Ça, c'est pour faire simple, mais si on veut faire un petit peu plus physiopathologique, rentrer plus dans les détails de l'immunologie, on peut dire que sa survenue résulte de l'exposition à des facteurs environnementaux favorisants et la survenue d'événements immunologiques liés au hasard sur un terrain génétique favorisant. Et si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, la principale source d'auto-antigènes semble provenir d'un nettoyage défectueux des corps apoptotiques, et le matériel nucléaire qui est anormalement disponible initie la réponse immunitaire par l'activation des récepteurs intra- et extra-cytosoliques aux acides nucléiques. Et l'interaction entre les différents acteurs cellulaires de la réponse immunologique tels que les cellules dendritiques, les lymphocytes B, les lymphocytes T, aboutissent à la production de cytokines, d'auto-anticorps, de cellules cytotoxiques qui seront délétères pour l'organisme et qui seront responsables de l'agression des organes, du rein, de la peau, des articulations et du système nerveux central par exemple. Les deux cytokines les plus impliquées dans la physiopathologie de cette maladie et qui sont le cible actuellement de traitements de biothérapie ciblée, sont les interférons, notamment les interférons type 1, et le B lymphocyte stimulator, qu'on appelle le BLIS ou BAF, qui ont un rôle clé dans l'initiation et l'entretien de la réponse auto-immune. On connaît quelques facteurs environnementaux favorisants, notamment les rayons ultraviolets qui sont apportés par le soleil ou par l'exposition ultraviolet dans les salons de bronzage. Le tabagisme est un facteur favorisant, notamment le lupus cutané. La présence d'œstrogènes, alors la présence d'œstrogènes, subite, naturelle, liée au sexe féminin, ou bien les œstrogènes apportés par la contraception hormonale ou le traitement hormonal de la ménopause, et également les œstrogènes qui sont présents pendant les grossesses. Et pour terminer, on connaît certains médicaments qui seraient responsables de l'émergence ou de l'aggravation de lupus. La liste est assez longue et le lien entre exposition aux médicaments et l'apparition ou aggravation d'un lupus n'est pas forcément très robuste sur le plan statistique et démonstration immunologique.
Et sans traitement, docteur Mathian, quelle est l'évolution de la maladie?
Alors, on peut distinguer deux types de lupus. En ce qui concerne le lupus cutané pur, la teinte sera esthétique, affichante si les lésions sont sur le visage, et irréversible. S'il y a des lésions atrophiques, dyschromiques, la teinte, la lésion sera indélébile et restera en permanence présente et s'affichera sur votre corps. En ce qui concerne le lupus systémique, lupus où il peut y avoir donc des atteintes d'organes, notamment rénales, cardiaques ou système nerveux central, avant l'existence de la corticothérapie qui a débuté dans les années 50, l'évolution était fatale, avec des décès par insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Maintenant, avec les traitements qui existent, la maladie est tout à fait traitable et la réponse thérapeutique est en général très bonne. Le pronostic est aux alentours de 93% de survie à 10 ans pour les lupus tout venant. Le pronostic est probablement un petit peu moins bon dans les lupus avec atteinte viscérale grave, notamment en cas d'atteinte rénale. Il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie chronique qui va nécessiter donc une surveillance clinique et biologique chronique par un spécialiste connaissant la maladie. Et au cours de cette surveillance, les traitements seront adaptés au fil du cours de l'évolution de la maladie sur le plan clinique et biologique. Et cette surveillance chronique fera également l'objet d'une prise en charge et de la prévention des comorbidités telles que le risque infectieux, le risque cardiovasculaire et également le risque d'ostéoporose. La tendance actuelle dans la prise en charge thérapeutique des patients et de faire basculer la pression thérapeutique des corticoïdes, qui ont beaucoup été utilisés jusqu'à présent, vers des médicaments non corticoïdes, tels que l'hydroxychloroquine, les immunosuppresseurs classiques chimiques et les nouvelles biothérapies, pour alléger et faire diminuer les effets secondaires classiques connus de la corticothérapie, qui sont devenus actuellement l'une des charges et des séquelles importantes de ce type de maladie chronique.
Et pour conclure, docteur Mathian, en cas de signe évocateur, à qui adresser ces patients ?
Alors, je n'ai pas de réponse très facile à vous donner. Je dirais qu'il faut adresser les patients à un médecin qui connaît la maladie. Ce médecin peut être un médecin interniste, un médecin rhumatologue, un médecin dermatologue, un médecin néphrologue, un rhumatologue pédiatre. Ce sont les spécialités qui connaissent le plus les maladies lupiques. L'objectif de ce premier contact sera surtout de confirmer le diagnostic, un diagnostic qui repose beaucoup sur l'expérience du clinicien, sur la présentation clinique de la maladie et sur les anomalies sur la prise de sang. Et puis à partir de cette confirmation diagnostique, on établira une prise en charge qui pourra être différente en fonction du type de lupus et d'atteinte d'organes qu'il y a. Un lupus cutané peut tout à fait être suivi par un dermatologue de ville de façon tout à fait simple, sans qu'il y ait de besoin d'un médecin spécialiste en plus. Un lupus avec atteinte rénale aura tout intérêt à être suivi plutôt par un néphrologue et peut-être également par un rhumatologue ou un interniste pour qu'il y ait une prise en charge globale de la maladie au fait des connaissances actuelles et des variations de propositions thérapeutiques qui existent et qui actuellement sont modifiées tous les 6 mois régulièrement. Les traitements et les connaissances sur la maladie évoluent et on a besoin d'avoir des médecins qui sont tout à fait au courant de la maladie. Il est possible que les patients atteints de lupus qui sont stables avec des atteintes articulaires par exemple isolées puissent être suivis en ville par un médecin généraliste, mais cela demande de la part du médecin généraliste une connaissance des éléments à surveiller dans la maladie, surveillance clinique et biologique, et notamment la surveillance des toxicités éventuelles des traitements. La prise en charge est adaptée à chaque malade et différente d'un patient à l'autre. Les patients les plus graves sont suivis à l'hôpital par des médecins spécialistes, en général des internistes.
Eh bien, merci mille fois, docteur Mathian, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le lupus systémique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raresalecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rares à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.